Vous écoutez
RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Manuel Bompard. Bonjour. Vous êtes le député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Et ben, on voudrait avoir votre réaction ce matin au scénario de la peur. Les scénarios de la peur, c'est pas pour moi, la France va tenir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron avec un ton très en colère. Est-ce qu'il vous a rassuré ?
Non, d'abord, si le président de la République est en colère, c'est sans doute contre lui-même qui doit être en colère et contre son gouvernement. Puisqu'il y a un certain nombre de messages qui sont très contradictoires qui sont envoyés. C'est-à-dire, en même temps, il dit non, il n'y a pas de problème. Et en même temps, il cible celles et ceux qui, selon lui, seraient les responsables de la colère. Et dans le même temps, vous avez des décisions gouvernementales, vous avez des circulaires, vous avez des rendez-vous qui sont organisés par les préfets dans un certain nombre de départements pour organiser la possibilité de ces scénarios de délestage. Donc il faut savoir, soit c'est une hypothèse crédible, soit c'est pas une hypothèse crédible. Bon, moi, il me semble que il y a une impréparation totale, si vous voulez, du gouvernement sur ce sujet qui fait naître des inquiétudes qui sont légitimes et il y a des questions qui ne sont pas tranchées. Il y a eu cette histoire des patients prioritaires, il y a la question qui est posée des numéros d'urgence, il y a la possibilité, s'il y a des délestages dans certains endroits, qu'on puisse plus avoir accès au réseau téléphonique et aux services d'urgence qu'on peut appeler. Bref, il y a plein de sujets où on se demande quand même pourquoi le gouvernement les a pas.
Donc vous considérez que le fait de poser ces questions, ce n'est pas installer une peur ou une manière de gouverner par la peur?
Mais non, mais soit ça correspond à une réalité, et dans ce cas-là, il est normal qu'on se prépare. Soit ça correspond pas à une réalité, dans ce cas-là, faut pas en parler. Mais si ça correspond à une réalité, il y a un certain nombre de sujets où on se demande pourquoi le gouvernement s'est pas préparé plus tôt. Donc là, voilà, je trouve qu'il y a une communication gouvernementale qui est complètement à côté de la plaque.
Pour vous, c'est contradictoire, mais sur le fond, vous feriez quoi ? C'est-à-dire que si vous vous retrouvez, vous, aux manettes, alors on peut dire, bah oui, mais c'est parce que ça n'avait pas été anticipé, tout ça, mais enfin, si demain vous vous retrouvez aux manettes, qu'il y a une dissolution, que vous arrivez au pouvoir, vous faites quoi, vous ?
D'abord, l'anticipation, c'est quand même pas un petit sujet. La question qui est posée, c'est quelles sont les politiques de sobriété énergétique et quelles sont les politiques d'efficacité énergétique qui sont mises en place. Je rappelle qu'il y a peu, on a voté à l'Assemblée nationale des amendements pour consacrer 10 milliards d'euros supplémentaires dans la rénovation thermique des logements. Donc, pour faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage
d'électricité. Cet amendement a été balayé par le gouvernement.
Il y a eu un article 49.3, les amendements avaient été votés majoritairement par l'Assemblée nationale. Ils ont été balayés par Madame Borne. On sait très bien, par exemple, que là, il y a un sujet sur lequel on peut réduire en profondeur la consommation énergétique des logements par des politiques où on rénove, on gaspille moins. C'est un enjeu écologique, ça évite les gaspillages, c'est un enjeu social parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être confrontés à des factures d'énergie qui vont être exponentielles et qui vont tout simplement pas pouvoir payer. Donc, il y a d'abord un premier sujet, c'est quelle anticipation, quelle politique d'efficacité énergétique.
Une fois qu'on a dit ça, j'entends parfaitement, oui, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire tourner le pays et on
bien
le fait
sûr.
Tourner comment ?
On y répond par des politiques de sobriété, donc par des réductions de consommation, mais là aussi...
Mais là, par exemple, quand on apprend aujourd'hui que les Français, depuis un mois, ont baissé de 8% leur consommation, donc ça veut dire que les Français, ils ont fait un effort, ils se sont serré la ceinture.
Non, mais attendez, les Français, ils sont responsables. Le problème, c'est que c'est toujours le même sujet en matière de sobriété énergétique. Si vous voulez que les gens fassent des efforts, il faut que tout le monde comprenne que ces efforts, ils sont équitablement partagés. C'est-à-dire que on met d'abord...
C'est pas le cas aujourd'hui.
Clairement, quand vous avez, pour donner un exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais quand vous avez des immeubles de bureaux qui restent allumés la nuit, quand vous avez des publicités numériques qu'on voit partout dans les grandes villes qui restent allumées à longueur de journée et même parfois la nuit. Alors, il y a eu une circulaire pour dire qu'entre 1h et 6h du matin, on coupe les panneaux publicitaires, mais on peut le faire de manière beaucoup plus générale.
Après, pour vous, on les coupe tout court?
Il me semble
tant pis,
que s'il y a une difficulté,
on arrête la pub pendant 6 mois.
Pourquoi pas? Enfin, écoutez, s'il doit y avoir une difficulté d'approvisionnement énergétique, entre fermer l'école le matin pour que et empêcher les enfants d'aller à l'école ou couper la publicité, excusez-moi, je préfère couper la publicité.
Et les aéroports, il y a une membre de votre groupe qui était à mon micro hier.
Pas de notre groupe, c'est
de votre groupe élargi, membre de la NUPES.
Sandrine Rousseau.
Sandrine Rousseau, merci. Vous êtes là, Manuel Bompard, vous suivez. Sandrine Rousseau qui dit, on devrait éteindre les aéroports. Est-ce que ça vous fait
compris la proposition. C'est quoi? C'est éteindre la lumière? C'est empêcher les aéroports de fonctionner? Ça, honnêtement, j'ai pas très très bien compris la proposition. Mais en tout cas, moi, je suis pas hostile à l'idée de dire qu'il y a des consommations qui sont indispensables à la vie quotidienne et ça doit être celles qui sont priorisées.
En fait, on revient à la question de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas.
Exactement.
Si vous êtes dans une zone industrielle, qu'il y a des enseignes de vêtements, par exemple, et des enseignes alimentaires, vous laissez allumer les enseignes alimentaires, vous éteignez les enseignes de vêtements?
Je sais pas si si c'est cet exemple-là qu'il faut prendre, mais je pense que c'est une question philosophique.
La aux chaussures, non, Leclerc, oui. Non, enfin, mais
si vous voulez des politiques d'effort, de sobriété, pour que ces politiques de sobriété soient suivies, les gens doivent pas avoir l'impression que c'est à eux qu'on demande de faire les efforts et à ceux qui ont les moyens de pas en faire. Parce que sinon, les gens, ils comprennent pas. Donc, il y a des politiques qui doivent être justes. Vous pouvez pas dire, les écoles, pour reprendre cet exemple, on va les fermer, mais par contre, les stations de ski, il y a pas de problème. Parce que sinon, les gens se disent, bon, ben, moi, dans ma vie quotidienne, je suis impacté, mais celles et ceux qui utilisent, qui sont dans une utilisation qui est une utilisation de loisirs, eux, on leur demande pas de faire des efforts.
Manuel Montpar, vous êtes élu à Marseille, mais oui. Vous êtes représentant de tous les Français. Le Pass Navigo en Île-de-France qui va augmenter de 12%. Il va passer de 75 à 84 euros et encore 84,10. C'est acceptable, c'est supportable?
Non, clairement pas. Et si on fait le lien avec le débat qu'on venait d'avoir juste précédemment, ça concerne pas peut-être l'électricité directement, mais si vous voulez avoir des politiques de réduction de sobriété énergétique, ça passe notamment par le fait de développer les transports en commun au détriment de l'utilisation de la voiture individuelle. Et donc, vous pouvez pas avoir dans le même temps des signaux qui sont contradictoires avec le fait que prendre les transports en commun, ça va être beaucoup plus cher. Donc là, il y a une responsabilité partagée de la région Île-de-France en l'occurrence et du gouvernement. La région Île-de-France renvoie la balle au gouvernement en disant on n'arrive pas à financer la politique de transport. Le gouvernement dit c'est pas notre responsabilité, il faut que les deux se mettent autour de la table et qu'ils débloquent des financements supplémentaires qui permettent que le Pass Navigo n'augmente pas de manière extrêmement rapide. Il y a une situation catastrophique des transports en commun en Île-de-France, c'est le cas partout, mais en particulier en Île-de-France, le tarif, mais aussi les rames qui sont totalement bondées.
Un mot quand même sur la niche parlementaire, on a compris hein, désormais ce que c'était les niches parlementaires. Il y avait la vôtre il y a une dizaine de jours, vous aviez mis la corrida, vous aviez mis la réhabilitation des soignants non vaccinés, et là il y a le RN qui vous offre sur un plateau la possibilité de faire passer votre loi, puisque dans la niche parlementaire du Rassemblement National, ils vous donnent la parole, ils vous donnent un moment de leur temps pour que vous puissiez défendre votre position sur les soignants non vaccinés. Vous allez accepter cette main tendue du RN?
On va en discuter, mais d'abord, excusez-moi, la présentation des faits, c'est pas tout à fait ça. Le Rassemblement National a pris la décision tout seul dans son coin de dire qu'il voulait reprendre le texte qu'on avait mis dans notre niche parlementaire.
C'est-à-dire votre texte.
Ils nous ont pas demandé notre avis. C'est eux qui ont décidé tout seul. Donc expliquer qu'il y aurait un accord entre le Rassemblement National.
J'ai pas dit qu'il y avait un accord.
C'est
juste
que vous avez dit. Mais
ils vous ont mis sur un plateau votre loi.
Il y a certains de vos collègues qui ont dit ça. C'est pourquoi j'en profite pour le préciser. Premièrement, deuxièmement, ce n'est
pas un accord, mais c'est un baiser de la mort.
Non, mais attendez, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune possibilité que ce texte soit adopté dans la niche du Rassemblement National pour une très bonne raison, c'est qu'ils ont repris le texte en l'état. Or, le gouvernement y avait déposé plus de 300 amendements. En moyenne, à l'Assemblée nationale, on considère qu'on examine 20 amendements par heure.
Même cause, même effet.
Mais bien sûr, donc il est totalement impossible. Il faudrait 15 heures d'examen de ce texte pour qu'il puisse être adopté. Donc, le sujet n'est pas là. Donc, maintenant, nous.
Mais vous défendrez quand même votre texte?
Non, je ne sais pas.
Pendant le temps de la niche parlementaire RN.
Si c'était vous, vous ne le feriez pas. Très précis, je vais vous dire les choses précisément. Je souhaite que le plus rapidement possible, la France décide de réintégrer les soignants suspendus. Tout le monde le fait en Europe. Il reste plus que la Grèce et la France qui le font pas. L'Italie va le faire, l'Allemagne va le faire, tous les autres pays sont en train de le faire. Donc, maintenant, je cherche quelle est la meilleure opportunité pour que ce texte soit voté. Et ça ne passera pas par la niche du Rassemblement National. C'est une évidence pour les raisons que je vous ai indiquées à l'instant.
Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, merci à vous d'être venu dans ce studio répondre à mes questions ce matin.